for Montreal.
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/.
CKUT 90.3 FM in Montreal. No boundaries. Feel alive.
Bonsoir et re-bienvenue à votre émission d'art et culture préférée, Café, à 90.3 CKUT. Ce soir, nous avons préparé une longue entrevue avec le groupe Post-Corpo Cock Rock, Woof Woof Inc., qui lance leur deuxième album aujourd'hui même. Par la suite, notre cinéphile préféré, Esther, nous présente son topo du Festival du Nouveau Cinéma qui se déroule à Montréal présentement et en ligne jusqu'au 31 octobre. Et là, je suis pas certain, mais s'il nous reste du temps, je vais vous présenter après ça quelques chansons qui sont nominées au très prestigieux gala GAMIC. Donc, mais pour le moment, et pour vous mettre un peu dans l'ambiance du groupe Woof Woof, écoutons la première pièce de leur nouvel album, Club Secret.
Bienvenue au club secret, c'est chic, c'est vrai. Rideau rouge et colonne grecque, ah, comme c'est sélect. Bienvenue au club élite, gestionnaire et gens instruits. La seule chose vraie, la seule chose d'être, c'est le mantra qu'on récite.
Quand on veut, on peut. Veston vêtu, visionne vendu, tout ce qu'on a eu, on l'a reçu.
On mange du plus-value. Félicitations, c'est fait. Bienvenue au groupe discret. Cognez trois coups et soyez prêts. C'est le moment qu'on attendait.
Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut.
Bonsoir, ici Anthony et Ève-Laurence pour Café. On vient d'entendre la fameuse chanson Club Secret qui nous invite à vouloir et donc à pouvoir. Et là, nous, vu qu'on est dans un club secret qui s'appelle Café, on veut, donc on peut demander au groupe Woof Woof de venir faire une entrevue avec nous. Qui est le groupe Woof Woof? C'est un trio formé de Charles Smith, Guillaume Mansour et Alexis Dionne. Le groupe a lancé leur premier album il y a un an intitulé « Ressources humaines » en mars 2019. Fait à noter, on aime beaucoup les anecdotes ici, presque un an, jour pour jour, ils jouaient leur dernier spectacle à la Feu Brasserie Beaubien. C'était le fameux dimanche où il y a eu l'état d'urgence covidienne. Elle a été déclarée au Québec. Un grand jour. Donc, je sens que cette croustillante anecdote vous a tous et toutes mis l'eau à la bouche. Vous voulez en savoir plus sur ce mystérieux groupe, puisque nous les avons au bout du Zoom, avec nous. Bonsoir, Woof Woof Inc.
Allô, bonsoir.
Allô, Woof Woof. Je dois dire que je suis très contente et j'avais très hâte de réaliser cette entrevue, parce que moi, je me retiens depuis mai dernier pour ne pas parler de l'album, parce que j'ai eu la chance quand même d'en entendre quelques extraits avec mon ancien colocataire et membre fondateur du groupe, Alexis. C'est un petit bijou que vous lancez aujourd'hui. C'est vraiment bon. Je recommande à tous les auditeurs et auditrices l'écoute. Mais aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on va pouvoir en jaser avec vous. juste avant votre... ben non, en fait, vous êtes en pleine tournée là, présentement. En fait, ça fait déjà depuis hier là, que vous êtes en tournée au Québec pour présenter votre album « Dangereuse vie ».
Donc là, il n'y a peut-être pas tout le monde qui vous connaît bien. T'sais, vous êtes gros, là, mais c'est gros correct. Donc, est-ce que vous voulez commencer par une question d'introduction? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance du groupe, de qui vous êtes, comment que ça s'est passé Wouf Wouf au début?
Oui, ben donc Wouf Wouf, moi c'est Alexis en passant. Donc Wouf Wouf, ça a commencé en 2017-2018, à mon dernier show avec un de mes groupes de jadis qui s'appelait Leafer de Québec. Puis j'ai joué au Divan Orange et Guillaume Mansour, la légende, la personne, était DJ cette soirée-là. Puis, comme il y a eu une énergie, il y a eu quelque chose de cosmique, puis j'ai dit, j'aimerais ça jouer de la musique avec toi. À ce quoi il m'a répondu, j'aimerais ça jouer de la musique avec toi. Rien ne se dit, rien ne se passe durant plusieurs mois. Ouais. Je le recroise en face d'un magasin d'épices au marché Jean Talon. Puis je dis, hey, j'aimerais t'envoyer des démos. Je lui envoie des démos. Il me dit, aïe aïe, c'est donc ben bon ça. Il m'envoie des démos. J'ai dit, aïe aïe, c'est donc ben bon ça.
C'est réciproque.
Et exactement. Donc, ça a vraiment été un coup de foudre d'abord d'apparence, puis ensuite de fond. Puis on a découvert cette passion commune-là dans la musique, dans nos goûts, ce qu'on voulait faire. Puis on se met à pratiquer. Mais comme vous savez très bien, Wouf Wouf, ce n'est pas un duo. Hein? C'est un trio. Donc, à la recherche d'un drummer, j'écris à Charles, suite au conseil de Guillaume. Il me dit, on devrait écrire au drummer de Tendre, il me semble, ça fait très bien. Puis là, on y écrit, puis il dit, OK, je suis partant pour un jam. Et là, on a une pratique ensemble, puis il y a juste eu... C'est instantané. Ça a été l'amour. Mais vraiment une complicité, puis de là est né l'assemblage d'individus qui forment Wouf Wouf. Mais au début, c'était des chansons que je traînais depuis un moment, Guillaume aussi. Puis on est devenu, je dirais que moi, j'étais dans Petite Italie à l'époque, je voyais les condos se construire, je voyais la gentrification de plein fouet. Puis j'ai commencé à composer des textes à propos de cet inconfort-là, sachant pas trop comment en parler autrement. Puis ça a commencé à dire, OK, ben Wouf Wouf, on devrait parler des gens qui veulent vivre en condo, des gens qui sont les développeurs immobiliers, des personnes qui veulent voir la ville changer comme ça. Puis, on va se le dire, il y a un rapport assez direct entre... Non, il n'y a pas assez de bands qui font l'éloge des patrons. puis Wouf Wouf, c'est ça, je veux dire. Aujourd'hui, c'était lundi de l'Action de grâce. Aucun de nous a pris congé. On a tous travaillé vraiment fort.
Vous êtes exemplaire.
Mais oui, je donne plus à l'impôt. Je suis un citoyen modèle. En tout cas, tout ça pour dire Wouf Wouf est devenu graduellement cette vitrine-là. Mais au noyau de Wouf Wouf, et peu importe ce que Wouf Wouf va devenir dans le futur, ça va être quoi nos thèmes, ça va rester les trois personnes qui le composent.
Ouais. Wow, vous êtes pas juste un trio, tu sais, avec tout l'amour qu'on ressent, je pense que vous êtes un trouple. C'est le nouveau terme,
oui.
Là.
Ouais,
vous êtes un trouple.
Ben, c'est une magnifique histoire, mais avant de parler plus des textes, j'aimerais bien parler musique, parce que c'est un album extrêmement varié. On dirait qu'il y a comme plein de clins d'œil à plein d'époques musicales. J'avais l'impression de faire une espèce de voyage spatio-temporel à travers la musique. Il y a quelques pièces qui rappelle un peu le garage rock de l'Ouest américain, un peu de blues parfois, un peu de funk avec des guitares, bass, slappy, un peu de synth wave à la Stranger Things, un peu de disco, des drums, un peu de jazzy des fois. Il y a même de la musique genre de jeux vidéo. Ça, j'ai l'impression que je connais la personne qui inclut ça. Et en tout cas, bref, je vous laisse écouter l'album. Là. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment varié. Mais comme on aime ça classer les choses, des fois, on aime ça catégoriser la musique, je me demandais comment vous décrivez votre style musical ou votre genre musical.
Oui, j'ai le goût de répondre à ta question, Eve Laurence. Et je suis Guillaume Mansour, en passant.
Santé.
Dans le fond, ta question est intéressante parce qu'on pousse, il y a un terme qu'on pousse beaucoup, mais qui ne colle pas nécessairement. Et le terme le plus générique pour décrire notre musique, c'est un peu comme dad rock. On pourrait dire que c'est du dad rock dans l'esprit où les références qu'on a, c'est des références que nos papas de banlieue pourraient aimer. Il y a quelque chose à première oreille qui est comme un peu Beatles, qui peut être à la limite, c'est Rolling Stones ou du rock alternatif là, à la chambre. Mais nous, notre vrai terme qu'on aime le plus utiliser pour ça, d'écrire, c'est rock parental. Premièrement, parce que c'est un terme non genré, mais qui évoque le même esprit. Puis, on veut pousser ça aussi plus loin. On appelle ça du rock parental post-corpo. Puis là, les thématiques qu'Alexis a évoquées plus tôt font écho à ce terme-là.
Ouais. Est-ce que vous allez mettre ça dans vos tags sur Bandcamp, par curiosité? Oui, wow! Puis est-ce qu'on retrouve, on retrouve d'autres groupes avec ces appellations-là? Vous avez créé ça de toutes pièces. Oui. C'est magnifique. Puis ben, pour rebondir, c'est quoi vos principales inspirations?
Oui. Ça aussi, c'est une question vraiment fun. Parce que la dernière fois qu'on s'est fait poser cette question-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit puis qui collait vraiment au groupe, c'est Les Simpsons, les saisons 1 à 7.
C'est tellement parfait.
Anthony était sur mute, mais on a vu son visage faire
dit,
un
wow.
Ben, je dois avouer à tout le monde, là, là, ça va me faire mal, mais j'ai jamais écouté aucun Simpson de toute ma vie. Mais on m'a toujours dit que les meilleurs, c'était de 1 à 7. Fait que je sens comme que c'est vraiment... Ça doit être plaisant de se faire dire ça.
Je pense que c'est important. Quand on parle d'influence dans la musique entre intervieweurs et interviewés, l'habitude qu'on a, c'est de parler de d'autres musiques. Mais moi, je trouve ça intéressant d'ouvrir un peu puis de parler de des univers qui nous ont inspirés. Puis je pense que, un, le type d'humour des premiers épisodes des Simpsons, puis aussi l'énergie ou la drive, puis le fait aussi que les Simpsons faisaient souvent des exercices de style. Tu sais, comme à l'Halloween, il y avait des spéciaux Halloween. Il y avait des épisodes qui étaient des pastiches de films de Hitchcock. Puis je pense qu'il y a un peu cette chose-là dans le monde de la musique avec Oufouf, c'est qu'on a vraiment des exercices de style. Parfois, on essaie toujours d'être plus que juste un exercice de style, mais on aime clairement ça, être dans la citation puis faire écho à d'autres genres puis à d'autres types de musique. Puis une autre influence, mais j'ai le goût de lancer la balle à Alexis. Au niveau des paroles, Alexis est un grand fan de Régent Duchamp, puis je pense que ça se ressent dans ton approche.
Au niveau des paroles, je crois que je me souviens uniquement d'une seule figure de style dans mon cours de cégep en français, puis c'est l'allitération. Et à peu près dans tous les textes, j'essaie d'allitérer.
Oui.
Puis ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau du propos, ça va être dans l'absurde. Mais pour vrai, Simpson, c'est pas mal dessus en termes d'influence. Ouais. Tout ce qui est artistique aussi, ouais. Toutes les arts. Il n'y a pas un seul art qui n'a pas eu une influence sur Wolfwood. Non, mais blague à part, toute musique classique,
oui.
Énormément.
Alexis est un prof de musique puis oui. Qui verse dans le classique. Puis je pense que ça se retrouve dans la façon dont les chansons sont composées. Moi, personnellement, je suis autodidacte, mais... pendant qu'on compose, mais ça, on va peut-être en parler plus tard, mais Alexis m'aide énormément puis il m'apprend des trucs. Puis un autre truc à mentionner, je trouve, qui est vraiment important avec Charles, c'est que, par exemple, moi, dans ma vie personnelle, le rock est la musique que j'écoute le moins présentement. Puis je sais pas pour toi, Alexis, si t'es comme versé dans le rock ces temps-ci ou non, mais le noyau du band est vraiment dans, tu sais, on a des instruments de rock, puis on est dans le rock. Puis je pense que l'influence de Charles est vraiment importante là-dedans. Puis Charles, d'ailleurs, a une émission de radio de rock global, de psych-rock, de...
Ouais, rock psychédélique.
Ouais, de tout le rock.
Ouais.
De
tout le rock. C'est où ton émission, Charles, d'ailleurs?
Ah ben oui, sur le 89,3 FM CSM. Et puis, mais tu sais, c'est vraiment une...
Et toi, les contacts dans CSM? Comme qu'on entend parler dans une toune.
Entre autres, on est tentaculaire, en fait. C'est ça qui arrive.
Et là, vous êtes rendu à CKUT en plus, là.
C'est, ben, gros, là. C'est ça, exact. Là. Mais ouais, non, puis au niveau de l'inspiration musicale, au niveau rythmique, là, disons, là, c'est tout le temps l'idée de T'sais, l'idée très post-corpo de faire le plus avec le moins possible. Mais une idée peut-être pas tant post-corpo que parentale, où est-ce que souvent, ben, il n'y a rien de mieux qu'un silence. D'accord, tu
peux? Oh, c'est beau. C'est très beau. Charles, tu me permets de te lancer une fleur. J'ai beaucoup aimé la batterie de l'album. On l'entend, elle est toujours à sa place, jamais trop. Tu sais, un bon montage, c'est que dans ma tête, c'est quelque chose d'intense sans qu'on le remarque. Mais j'ai l'impression que la batterie est vraiment complexe, mais toujours en subtilité.
Ah, ben merci.
C'est le job de rock.
C'est une batterie umami, je dirais.
Savoureuse. Elle est savoureuse. Et là, on est rendu à la question que je tenais beaucoup. À l'écoute de vos deux albums, en regardant les pochettes, les clips, tout l'univers, disons, esthétique de Wolf Wolf Inc., ce qui me frappe, c'est que c'est votre genre de pas de côté. Votre deuxième niveau, votre humour un peu décalé, un peu genre anti-normcore. J'essaie de mettre des mots, là. J'ai même le goût de dire votre humour noir qui cherche à ne pas pleurer, tu sais, à cause de notre vie tellement normale et professionnelle. Tu sais, jongle, j'essaie de mettre des options. J'aimerais vous entendre parler un peu de ce décalage-là. Autrement dit, est-ce que vous voulez vraiment qu'on lâche tout notre job?
C'est vraiment une bonne question, puis je trouve qu'elle arrive à un bon moment dans ma vie. Parce que pour les quelques auditeurs et auditrices qui ignorent tout de ma vie, j'ai récemment quitté l'île de Montréal pour m'installer dans un village qui s'appelle Héberville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai élu domicile et ça, c'est vraiment, vraiment fun. Mais ça pose aussi la question, Wolf Wolf est très urbain hein, dans ses propos, parce que c'est la cité, malgré tout, qui a bercé mes 10 dernières années. Puis avant ça, malheureusement pour moi, c'était la banlieue qui était mon logis pendant 20 ans.
Charny, Beaubien-Saint-Laurent.
Exactement, exactement. Puis, je dirais que j'écrivais d'une place d'inconfort. D'inconfort par rapport à soit l'impuissance que j'avais ou que je croyais avoir, mais aussi de la pression de voir les choses changer constamment, sans sentir que mes voisins et mes voisines étaient satisfaits de ces changements-là. Puis donc, quand j'écris, mettons, Club Secret, c'est un peu ça, c'est comme, OK, venez dans le club, on va prendre des décisions, on va le réussir, mais comme, finalement, c'est du monde qui ont tout eu toute leur vie. Puis ça venait d'une place d'animosité.
Ça venait de...
Oui. Exactement. Pour moi, c'est de l'animosité. Mais Dangereuse Vie, ça venait d'une place qui était très sincère. Dans l'idée comme, m'en va leur donner mon 2 semaines. Hey, pour vrai, là, Dangereuse Vie, j'ose le faire. Puis ce que j'ai fait au final. Mais bref, en ce moment, le deuxième niveau, je ne sais pas si c'était tant un deuxième niveau que plutôt une lecture vraiment sincère d'un monde vraiment absurde. Je crois qu'il y a un peu ça, c'est il parle du monde d'aujourd'hui, mais d'une manière qui est très factuelle. Puis je crois que c'est très difficile de ne pas en ressortir avec un texte qui semble être très critique de l'état des choses. Mais au final, c'est une constatation.
Oui, je te suis très bien. Ça me fait penser à... Je me souviens d'avoir lu un cercle de lecture sur Kafka. Et là, le monde disait « Ah, c'est vraiment absurde, c'est vraiment absurde. » Et là, il y a un des professeurs qui a dit « Non, c'est encore plus complexe. Il fait juste montrer les faits, la réalité, puis il cherche pas à montrer l'absurde, juste en montrant les faits. Donc, la réalité, l'absurde sort. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, Wouf Wouf. Vous exagérez pas vraiment les boss, les proprios, le monde normal qui sont pognés à travailler le lundi, mais de la manière que vous le présentez dans vos chansons, c'est trop. Il y a quelque chose qui cloche.
Bien, je pense que ça met les gens... Oh, c'est beaucoup des lettres d'amour, hein, Wouf Wouf. C'est une lettre d'amour au lundi, retour au bureau. Mais il n'y a personne que je connais qui déclare son amour à sa semaine de travail. Mais je pense que de l'amener de ce point de vue-là, ou sur notre premier EP, une lettre d'amour au condo, puis je crois d'y aller dans cette exagération-là sentimentale, ça te fait poser... Tu te grattes la tête un peu pour dire « Pardon?
» Est-ce que vous avez... Oh, vas-y, Evelo.
Ah non, mais j'espère que tu vas retrouver cette inspiration-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, pour voir comme qu'est-ce qui peut ressortir de l'absurdité de... d'un monde de non-urbain, disons.
Ben, je dirais que c'est le plus grand cadeau jusqu'à présent de la semaine passée avec mes fidèles complices de Wouf Wouf qui sont hébergés chez nous. C'est vous m'aidez beaucoup à prendre une lentille puis à re-questionner un peu. Puis ce serait facile de parler des gens qui mangent à leur char puis qui chauffent des pick-up, mais genre, c'est pas l'avenue que j'ai envie de prendre. Mais je sais pas, j'ai hâte de voir la suite de l'absurdité de la vie.
Effectivement. Puis, vous avez sorti Ressources humaines en 2019, c'était votre premier album. Puis là, vous sortez aujourd'hui Dangereuse vie. Je me demandais, c'est quoi la différence entre ces deux albums? Comment vous voyez la progression, disons, de votre groupe à travers ces deux sorties-là?
Ouais, ben, c'est qu'en fait, ce qui est assez spécial, c'est que toutes les chansons presque de Ressources humaines et Dangereuse vie qui est là parmi nous aujourd'hui, ben, pas qu'elles ont. Tu sais, c'est un peu une époque très rapprochée qui réunit un peu toutes ces chansons-là. Puis le premier album Ressources humaines, c'était vraiment dans une optique d'un peu, en gros guillemets, nous, pas nous mettre sur la map, mais de donner au monde un peu le fruit de ce qui se passait. Parce que oui, on parlait de la gentrification dans Petite Italie, alors qu'on pratiquait toutes nos chansons dans la gentrification hochelaguienne. Fait que c'est ça qui est quand même bien avec Wouf Wouf aussi. Il y a une constance, là, on suit le capital. Fait que ça, au moins, on est rassuré avec ça. Mais au niveau de Ressources humaines, c'était ça. C'était vraiment une espèce de premier essai. Puis tu sais, je veux pas aussi, je vais parler beaucoup pour moi là-dessus, mais on se découvrait en tant que Wouf Wouf version studio. Et puis, ouais, on est allé enregistrer ça. Je me sens que c'était dans Annecy, dans une ancienne maison de vétérans reconvertie en studio. Puis c'était super agréable, c'est une belle expérience. Mais c'était vraiment, c'était un avant-goût. Là. J'ai l'impression que l'album Dangereuse vie, c'est vraiment, là, on a la sauce à prix. Là. C'est vraiment là où est-ce qu'on a pu pousser le plus loin que nous puis nos collaborateurs, nos collaboratrices ont réussi à nous aider à... Où est-ce qu'ils ont réussi à nous amener là, tu sais? Mm-hmm. C'est pas super clair ce que je viens de dire comme phrase, mais je pense que vous comprenez. Puis c'est le fait de dire que, tu sais, non, tu sais, Wouf Wouf, c'est un trouble, mais c'est un trouble aussi qui est quand même entouré de gens exceptionnels. Tu sais, je pense, c'est Jean-Michel Coutu, là. Il y a un apport inconsidérable dans le nouvel album de Dangereuse vie parce que c'était un peu comme un consultant marketing qu'on a engagé, qui venait de finir son cours au HEC, puis que là, ben, on avait besoin un peu, pas d'une réorientation en tant qu'entreprise corporative ou Inc., mais plus en essayer de faire en sorte que la machine roule puis qu'elle soit super bien huilée. Puis justement, Dangereuse vie, puis je pense que vous pouvez l'entendre en écoutant back à back les deux albums aussi. Là. On est un troupe, mais un troupe qui, je ne sais pas comment dire, on dirait qu'on est 5-6 parfois aussi pendant l'album, mais toutes ces entités-là de plus, ben, sont représentées à travers justement Jean-Michel Coutu qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidés, qui a été là aussi pour le premier album, mais avec Dangereuse vie, il a été là du début à la fin. Puis quand je disais un peu dans la même époque, c'est que veux pas les tunes de Dangereuse vie, on les a toutes enregistrées on a canné ça en une semaine. Wow. Parce que ben moi je m'en allais à Rimouski, puis je partais en bateau, puis on n'allait pas pouvoir se revoir. Fait que c'était un peu aussi. C'est ça qui est drôle avec cet album-là, c'est que autant qu'il y a une forme d'urgence qui est un peu intrinsèque à ça, autant qu'en même temps, il y a un peu une genre de sagesse dans le rendu. Fait que, en tout cas, je sais pas s'il y a de quoi rajouter par rapport à ça, là.
Ben, je dirais, ça a été vraiment... L'album Dangereuse vie, ça a été une époque qui a été cristallisée. Quand on est rentré en studio, on sortait d'une série de spectacles. Puis on savait justement que Charles partait à Rimouski pour devenir marin. Puis il y avait une fébrilité... un film d'amour se déposait sur littéralement toutes les surfaces. Puis, oui, ça a été une semaine.
Un filtre d'amour, c'est ça? Un film d'amour.
Un film d'amour. Une mince couche d'amour était sur toutes les surfaces.
Une pellicule.
Une pellicule.
Une pâte philo. Une image.
Puis, mais après cette semaine-là d'enregistrement, il y a eu 6 mois de post-prod où est-ce que je rencontrais Jean-Michel Coutu le mardi et le vendredi matin, soit pour faire du vocal, soit pour re-amp des basses ou des affaires, soit pour faire des choix de mix. J'ai jamais travaillé autant de ma vie pour un album.
Wow.
C'est tellement corpo.
Pas de jour férié pour nous.
Mais là, vos réponses m'amènent à la dernière partie de l'entrevue. C'est potentiellement ma préférée. Il y a une tradition que j'essaie d'intégrer à chacune des entrevues que je donne à Café. Pour que ça soit une tradition, je dois la répéter sans la remettre en question. Sinon, ce ne serait plus une tradition. Donc, ce que j'aime faire lorsque je reçois des artistes à l'émission, c'est leur demander de nous faire rentrer dans leur atelier de création. Dans votre cas, ça serait comme votre studio de pratique ou d'enregistrement. Bref, j'aurais le goût de vous demander plus précisément, vous en avez déjà parlé largement, comment ça se passe la création d'une chanson. Donc, si, mettons, je vous lance un défi, je vous dis « Dangereuse vie », ce chef-d'œuvre-là, est-ce que vous pouvez nous parler du processus, des étapes, de la manière que vous avez travaillé comme la matière musicale un peu?
Avec plaisir. « Dangereuse vie », c'est une chanson... Il y a des chansons parfois qui apparaissent, puis il y a des chansons parfois qu'on travaille.
Oui.
Sur notre premier album, Milborn, c'est une chanson qui est apparue. Dangereuse vie, c'est une chanson qui a été travaillée. La première fois, c'était au synthé et j'avais juste pou-ta, pou-pa-tou, pou-pa, pou-pa-tou, pou. Et ça, c'était l'idée. C'était une toune de synthé à la base. Puis, je me rappelle, j'écoutais une toune d'Animal Collective qui, le vocal était vraiment aigu au début. Ah, je vais aller chercher une note. Puis je me rappelle, j'essayais de taper le rythme puis de chanter cette mélodie-là. Puis je savais pas que j'avais de la misère. Puis là, les premières versions qu'on a faites, la première fois qu'on a présenté un spectacle, c'était à l'hémisphère gauche. Puis la pièce commençait, moi, au synthé. Et à la mi-chemin, je prenais la guitare. Puis elle devait durer 2 fois plus longtemps. Puis je me rappelle, après le concert, je parlais avec mon ami Sam, je disais, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis là, ah, j'ai rien compris de ce que tu as dit de cette tune-là. Parce que tout le long, je faisais... Je chantais vraiment aigu sans articuler. Je disais, OK, la tune est bonne, mais pas encore bonne. Puis là, on l'a vraiment travaillé ensemble en studio, puis j'adore composer la structure. C'est peut-être l'aspect, le paramètre musical qui me plaît le plus. Et là, Guillaume, t'es arrivé avec une ligne de basse.
Je ne me rappelais plus, mais oui, en effet, j'avais une ligne de basse. Mais la chanson, pour la décrire un peu rapidement, pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de l'écouter...
Elle s'en vient, elle va être tout de suite après, on va finir avec ça. Là.
Vous allez vous rendre compte qu'elle sonne vraiment comme une chanson des CDC un peu. Elle a un peu cette vibe-là. Très, très chaude, très, très, très... On aime CKUT, mais... Cette chanson-là a été un peu justement l'idée que Chaume existe, le concept de Chaume est venu un peu s'incruster dans le processus créatif. Puis on s'est mis, on dirait, à comme tous les éléments qu'on s'est mis à ajouter par la suite dans la chanson étaient dans l'idée que Chaume existe et que peut-être un jour allait daigner s'intéresser à cette chanson-là.
On rêve que cette chanson-là se joue à Chaume. Il faut que ça arrive.
Ben écoutez, si vous avez des contacts. Écrivez-leur! Mais bref, je pense que c'est pour cette raison-là que ma ligne de basse est autant rock, cock-rock, on dirait, à une certaine époque, on aurait dit ça. Je ne sais pas si c'est un terme qui s'applique encore aujourd'hui.
Ici, on
l'accepte. C'est un peu ça, tu sais. C'est un peu comme méchant, mais épique un peu en même temps. Puis c'est ça. Puis le drum aussi, il s'est passé quelque chose.
Ben écoute... Oui. Ben, c'est parce que quand tu dis que ton rêve avec cette chanson-là, c'est de jouer à Chaume, veux pas, ça t'inspire automatiquement. Là, puis en même temps, ben, Moi, il faut que j'aborde un peu le sujet du vidéoclip aussi, là. Je veux dire, dans le sens où le vidéoclip est très dangereuse vie, là, on s'entend, là. Je veux dire,
incroyable.
Ben là, c'est ça. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est un festival qui n'existe plus. Le festival du Bélis de Saint-Damas, on était à la dernière représentation. Puis là, bam, avec le derby de démolition, avec des groupes d'âge. Donc oui, les 12 ans et moins, les 12 à 16 ans et les 16 ans et plus. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que oui. Ça aussi, ça fait partie de Dangereuse Vie, je pense. Là. Mais ouais, non.
Je voulais juste rapidement revenir au niveau musical dans cette pièce-là. Il y avait quelques défis que je m'étais donné, entre autres d'utiliser peu d'accords, parce que c'est vraiment simple, chier une suite d'accords qui est bonne. Il y a trois accords dans cette pièce-là, puis le couplet puis le refrain, c'est la même chose, puis c'est juste le vocal qui change, puis là-dessus, je suis quand même vraiment, vraiment content. Ou est-ce que c'est juste « Dangereuse vie! »
Yeah!
« Dangereuse vie! » Puis c'est juste comme ça, des moments dans le temps que c'est utilisé. Puis plutôt, on blaguait un peu de l'allitération, mais au niveau des paroles, c'était quelque chose que je suis vraiment content aussi. J'ai décidé d'essayer de le faire, d'essayer de faire ce que j'aime. À un moment donné, il faut être game. J'ai oublié les paroles, je ne suis pas habitué de les dire après. Mais tu sais, m'en va leur donner mon 2 semaines, ils n'auront pas vu venir, ils vont avoir de la peine. C'est quelque chose de très qui coule vraiment bien, je trouve. Ouais. Puis le come on, let's go, ça a été donné. Ça, c'était une intervention divine qui me dit « Come on, let's go, j'ai dit go ».
C'est un hit. On souhaite à tout le monde d'écouter cette chanson-là. En fait, on va l'écouter bientôt.
C'est un excellent verre d'oreille.
Moi, c'est rendu que je dis « Dangereuse vie » à tout le monde sans que personne sache qu'est-ce que je veux dire, mais j'assume le malaise. Vous créez des beaux malaises grâce à cette chanson-là.
Faut adopter l'expression.
Hey, un grand merci pour cette entrevue. Vous êtes beaux à voir, les gars.
On vous attrape en tournée. Là. Hier, vous étiez à Québec, ce soir à Alma. Puis
oh oui.
Demain, à Montréal, à l'hémisphère gauche, à 20h. Et puis, ben, aujourd'hui même, c'était le lancement de votre album.
Donc, allez sur votre Bandcamp, procurez-vous ce bel album-là, allez au show. J'imagine qu'il reste de la place?
Oui.
Oui, il reste de la place. Parfait.
Oui, d'accord. À demain, tout le monde.
Merci Woof Woof Inc. Et là, on va se laisser avec notre dangereuse vie.
Bonne soirée.
Merci, bye bye.
Dangereuse vie!
stage, armed with their repertoire of ancient criminal tunes from Moldova, Morocco, Greece, Ukraine, Poland, Argentina, Afghanistan, Russia, and Mexico. Orquesta Criminal is a 10-piece of improv performers interpreting inspired renditions of adventurous gangster songs from a dangerous and forgotten era. Saturday, October 16th, at The Ritz. Orquesta Criminal, with special guests, Meduse. Tickets $15 in advance at blueskiesturnblack.com, $20 at the door. Doors at 6:30, a co-presentation of CKUT.
What's up, everyone? This is DJ Killajoule, Montreal born and raised, and I've been rocking the deck since 97. I've played with everyone from DJ Kubert to Mixmaster Mike, and I'll be the DJ once again for the second season of La Fin des Faibles on Télé-Québec. I'm here to announce the release of my upcoming EP, Sagittarius, which launches Friday, October 22nd at Ausgang Plaza. Doors open at 7 p.m. LTs will kick things off, followed by performances by End of the Week, Sunday Scratch Sessions, and the legendary B-Girl crew. Live visuals provided by Mourad Benasser. Space is limited, so get your tickets online now at pointdevente.com. The show is a CKUT co-presentation and sponsored by Prohibition.
Sam's excited to see his favorite band play live. He's thought about it all week. He bought his ticket. He wore his band t-shirt. He went to the concert venue. He wasn't allowed inside the concert venue. He put away his band t-shirt. He threw away his ticket. And he thought about it all week.
Don't wait until it hits you. Get vaccinated. Beginning in September, you'll need a vaccination passport to enter certain public spaces. A message from the Gouvernement du Québec.
Thank you. Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Ici Esther Bourdage au microphone. Vous venez d'entendre une super pièce qui s'intitule Euphoria Face, une pièce sonore tirée de l'album Rêve Sonore, un projet de Stephen Christoph et Nick Storfield. Bien, c'est le Festival du Nouveau Cinéma qui bat son plein et j'espère que vous en profitez. C'est en mode hybride, donc jusqu'au 17 octobre, c'est en salle, jusqu'au 31 octobre, bien, vous pouvez attraper les films en ligne, voilà. Soulignons quelques superbes films. Le coréen, sud-coréen, Hong Sang-soo revient en force. Il a été très productif ces dernières années. Il revient en force, entre autres, avec le film Introduction. Introduction, bien, c'est un film assez court. C'est 66 minutes. Et comme dans plusieurs films de Hong Sang-soo, bien, on nous parle de vie artistique, d'angoisse, artistique, on nous parle du processus et la vie d'artiste. C'est un film très touchant. C'est une collection de rendez-vous manqués dans ce film. J'en dis pas plus sur la base du film, mais c'est à travers des conversations, à travers des regards, à travers une mise en scène très délicate, et que vous allez découvrir la vie d'un jeune homme qui a un peu peur d'exercer un certain métier artistique. Donc, introduction, le film de Hong Sang-soo joue ce samedi 16 octobre à 16h30. C'est au cinéma du musée, donc au musée des Beaux-Arts. Ensuite, autre film. Le film Celt, c'est un film de Serbie et qui retrace tout le contexte autour des années 90, particulièrement 93. Donc c'est un film qui est à Belgrade et à travers des discussions, des fêtes, vous voyez toutes sortes de péripéties de la vie en Serbie, remplie de tensions, d'angoisse, ouais, de grands défis, puisque c'était un déchirement national à cette époque-là. On parle de Milosevic, on parle des Croates, des Bosniaques. Donc c'était une nation qui se cherchait. Donc c'est des années très intéressantes pour le bouleversement géopolitique en Europe et en ex-Yougoslavie. Donc c'est un film très exalté qui parle aussi des droits humains, l'ouverture vers l'acceptation à l'homosexualité, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits féministes. Donc Celt, avec un S à la fin. Et j'espère que ce film sera distribué et disponible au grand public pour ce festival. Ensuite, un superbe film documentaire qui s'intitule Damascus Project. Damascus Dream, le premier long métrage de la Canadienne Emily Ferry. Elle est née au Canada de père syrien. Elle est auteure-compositrice, artiste visuelle, cinéaste. Son premier long métrage est un essai documentaire assez poétique, un collage de pensées, de réflexions composées, d'interviews, d'images d'archives, des archives photographiques, des photos qu'elle a prises en série, et des témoignages. Donc, elle essaie de retracer ses origines et elle parle avec des Syriens qui sont réfugiés au Canada. Et elle leur parle, leur demande des questions par rapport à leurs souvenirs, à leur futur, donc toutes sortes de questions d'identité, à savoir est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils se sentent bien, où est-ce qu'ils se sentent chez toi, au Canada, en Syrie, est-ce qu'ils veulent retourner en Syrie. Faut remettre les choses en contexte que, ouais, en 2012, la guerre a éclaté et la Syrie est devenue une ruine. Et donc, elle souligne au début qu'en 2010, il y a des photos de sa grand-mère, des photos de sa famille souriant. Personne ne se doutait qu'en 2012, un immense drame allait arriver. Aussi, elle met en contexte un peu, en 1947, il y a eu le retrait des troupes françaises. Ouais, certaines personnes en Syrie parlent français. Donc, les interviews se passent surtout, ouais, en anglais et en arabe, un peu en français. Donc, elle, par exemple, elle nous pose des questions sur les rêves quotidiens. Qu'est-ce qu'un rêve finalement? Est-ce que c'est le désir d'aller vers un futur ou est-ce que c'est les pensées que lorsqu'on dort? Et tout ça en question. Et voilà. Donc, elle a interviewé des membres de sa famille, des membres, des amis. Et elle-même, elle est née au Canada, donc elle n'a pas autant de mémoire visuelle comme son père de la Syrie. Elle a visité la Syrie avant le début de quelquefois et avant le début de la guerre civile. Donc, tout au décès de sa grand-mère, bien, elle a eu ce désir de tisser des liens beaucoup plus forts avec la Syrie, ce pays de ses ancêtres. Et donc, c'est un film à voir. C'est un documentaire très poétique, un essai, voire un essai. Et je souhaite très bonne vie à ce film-là et j'ai forte espoir qu'il va sortir en salle, évidemment. Donc voilà pour les suggestions de la semaine. Et allez en salle supporter le Festival de nouveau cinéma jusqu'au 17 octobre, puisque cette année, le festival a 50 ans. Ouais. Et c'est un peu malheureux dans ce contexte qu'on vit actuellement. Le festival ne peut pas célébrer pleinement. Bonne fin de semaine. Au revoir.
Merci beaucoup, Esther, pour ce topo. Vous êtes toujours au 90.3 CKUT, l'émission Café. Il me reste encore un peu de temps avant 7 heures. Donc, je me propose de vous parler de la GAMIC ou du GAMIC. Dans tous les cas, je parle du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec qui a sorti ses nominés cette semaine. Il me reste assez de temps pour deux chansons. Donc, j'ai le goût de me mouiller pour deux nominés. D'abord, l'artiste de l'année. Je dois avouer que dans la liste, j'ai un petit faible pour Elena Delan. Donc, je vais vous proposer d'écouter sa chanson thème de son album Someone New, de l'album Someone New. Et ensuite, ça a été difficile de choisir, mais je pense que pour la révélation de l'année, c'est un groupe qu'on aime beaucoup ici à Café. Donc, je vous propose d'écouter la chanson Tout faire à moitié du groupe Après l'asphalte. On s'en reparle après le gala, savoir si mes choix étaient bons. Donc, d'abord Elena Delan, Someone New, et ensuite Tout faire à moitié d'Après l'asphalte. Bonne soirée tout le monde.
Of my mind. virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19, tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
you're listening to CKUT 3 90.3.